sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.
Bonjour, bonjour en direct du lycée Descartes pour ce spécial des poches sous les yeux sur Radio Béton, un spécial concocté par Mélanie. Ça y est, j'ai fait mon boulot, je m'arrête.
Ah oui, enfin pas que, hein. je suis loin d'être seule sur ce coup-là.
Alors pourquoi est-on au lycée Descartes, Mélanie?
Bah parce que c'est joli, ouais. Les élèves qui sont là, ils ont l'air plutôt sympas, tout ça, donc on s'est dit pourquoi
c'est
pas.
C'est vrai, des élèves souriants, dis donc, c'est incroyable.
Ouais, ils sont obligés, ils ont été menacés par leurs profs. Donc justement, habile transition, on est aussi là grâce donc à Brigitte Bouvier, qui est responsable d'un projet qu'elle va nous présenter un petit peu pour expliquer, et après on passera au cœur du sujet, enfin. Tu es le cœur du sujet aussi, hein, je te rassure.
Merci Mélanie.
Alors pourquoi,
sommes-nous là ?
Ouais, c'est quoi ce projet ?
Alors il s'agit d'un projet européen, Erasmus+, qui rassemble 7 pays, nous compris. Donc je vais citer les pays. Ouais, allez. Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie, Pologne et Lituanie. Donc 6 établissements partenaires. Et on va travailler tous ensemble pendant 2 ans sur la notion d'écrivain et de réalisateur engagé. Alors le thème exact, c'est « Auteur et réalisateur engagé, une inspiration pour les jeunes Européens aujourd'hui ?» Point d'interrogation.
Plus c'est long, plus ça fait sérieux
Ouais.
Et ça permet d'avoir plus d'argent.
Et on a eu plein d'argent.
D'accord.
Parce que c'était vraiment très long. Et en plus, on le dit en anglais, alors on a eu encore plus d'argent.
Ouais. Alors si tu pouvais nous le dire en anglais maintenant, ça serait sympa.
Author and Directors with a Cause, Inspiring Young European Todays.
Et voilà le travail.
Et donc aujourd'hui, alors on reçoit Martin Vinclair, on va y venir.
Bonjour.
Hein, bonjour. Et est-ce que c'est le...
Donc ça y est, je suis engagé.
Ouais. Ça va être à vous de nous le dire, justement. Ça va être tout le cœur de la
problématique.
Mais qui
m'engage, exactement, je veux dire.
Engagez-vous.
Et combien c'est payé, d'abord? Combien c'est payé?
À toi de le dire, ça.
Alors, c'est l'agence européenne qui finance ces projets et qui finance de façon assez généreuse, il faut bien le dire. On n'est pas habitué à ça à l'éducation nationale, je peux le dire, c'est politiquement correct.
Tu peux le dire.
Non, et puis en plus, hein, sur des artistes engagés, c'est quand même paradoxal parce que moi, quand j'avais 25 ans, on n'allait pas financer les gens qui étaient engagés, c'est-à-dire qui étaient plutôt critiques avec la société.
Oui, mais comme on a beaucoup de mal à trouver des écrivains engagés, on les paye pour qu'ils viennent.
Ah, d'accord, bon, oui.
Et alors donc, ce projet, jusqu'à maintenant, il s'est passé des choses déjà ou c'est une première aujourd'hui ?
Alors, il s'est passé quelques petites choses déjà. On a reçu notamment lundi dernier, dans le cadre du Printemps des Poètes, l'éditeur Bruno Doucet, qui est un éditeur de poésie un petit peu engagé aussi. Les élèves travaillent et lisent des nouvelles que leur ont données les 6 pays partenaires. Nous aussi, nous avons choisi une nouvelle qui est le roman graphique de Julie Marot, Le bleu est une couleur chaude.
Qui a donné la vie d'Adèle au cinéma,
voilà,
si je me trompe.
C'est ça. Donc c'est le choix de notre lycée. Donc les 6 pays vont lire ces nouvelles et puis on va en discuter. Et la prochaine étape, après, ce sera une rencontre à Lagos, au Portugal, donc chez notre partenaire portugais, pour discuter de ces nouvelles.
C'est pour ça qu'ils sourient, en fait.
Ils y vont tous, là, au Portugal.
Ils n'y vont pas tous, il n'y a que 10 d'entre eux qui sont
délégués.
Ah, il y en a
quand même 10.
C'est ceux qui ont le sourire. Les autres, ce sont ceux qui restent là, en fait.
Les autres auront l'occasion d'aller en Roumanie en septembre ou en Lituanie en plein mois de février 2016. Donc là, ils sont super contents.
Oula, ça, oui. Il y a Québec, Montréal, c'est pas mal au mois de février aussi.
Vous êtes tous invités chez Martin Vinclair. Moins 35.
Ah bah cette année, oui, moins 35.
C'est motivant.
Et ça puis, va, on ils ont quand couvert. Même ils ont du travail à faire. Ils sont censés écrire une nouvelle engagée à leur tour après, hein, quand même.
Oui, ils vont aussi faire des chroniques pour des poches sous les yeux sur Radio Béton.
Et ils ont effectivement lu des livres et commencé à écrire leur chronique.
Si, ils me regardent comme ça. Si, vous allez le faire.
Et puis, on a également une classe de seconde dans littérature et société qui est engagée dans le projet, mais côté réalisateur, donc avec Charlie Rogeau, qui est un réalisateur torangeau.
Et un chroniqueur de Dépêche sous les yeux.
Ouais,
on est partout.
Chez nous,
hein. On est partout.
Ah ben voilà. Ah ben ça, je savais pas.
Si.
Charlie, c'est Charlie. Ah ben voilà, Charlie, c'est lui. Et donc, on va réaliser un petit court-métrage avec les élèves de seconde.
Très bien. Et donc, dans le cadre de ce projet, donc aujourd'hui, effectivement, nous recevons Martin Vinclair, alors qui est en France pour une liste. Je vais pas tout citer parce qu'autrement, on y est encore demain. Vous avez un programme absolument délirant. D'autant plus touché que vous preniez de votre temps pour venir aujourd'hui. Donc, hier, je crois que vous étiez à Paris pour parler de super-héros.
Je suis là pendant 15 jours, mais quand je dis que je vais, au départ, je venais pour le Salon du Livre. Et quand je dis que je viens en France, en général, il y a pas mal de gens qui m'invitent. Il se trouve que à ce moment-là, je dis bah oui, je suis là. Et si ça peut se faire au moment où je suis là, forcément les choses s'accumulent. Mais là, je venais à Tours pour la bibliothèque ce soir, donc j'allais pas dire non, je vais pas au lycée Descartes. Et puis ce matin, j'avais un entretien avec des chercheurs qui étudient tout ce qui concerne l'histoire de Tours, et en particulier en ce moment ils étudient l'histoire de l'IVG et de la façon dont on a réagi à l'IVG et aux interruptions de grossesse à la loi sur l'interruption de grossesse à Tours. Alors comme j'étais étudiant à Tours dans les années 70, que j'écrivais un journal engagé. On devait être royalement 30 dans toute la fac de médecine qui étions vraiment véritablement engagés, donc je suis venu parler de ça. Tant qu'à faire, puisque je suis là, je suis content de venir parler au plus grand nombre de gens possible. Merci. Si on m'invite, je ne vais pas dire non.
Mais merci beaucoup. Et alors ce soir, la bibliothèque, on peut aussi profiter pour en parler. Donc vous serez à 19h à la bibliothèque pour parler de...
Pour parler de House, du Dr House, parce que j'ai écrit un livre, mon dernier livre en date, c'est un livre sur la signification de la série, c'est-à-dire l'esprit du chaman, pour montrer que c'est pas du tout seulement une série ludique et que House n'est pas évidemment un modèle de rôle, parce qu'un médecin qui se comporterait comme il se comporte serait impossible à vivre dans la réalité, mais que en tant que personnage de fiction, il dit énormément de choses sur qu'est-ce que c'est que le soin, qu'est-ce que c'est que les dilemmes moraux que les médecins rencontrent, qu'est-ce que c'est que les dilemmes moraux et les conflits d'intérêts entre les médecins et les patients, etc. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'essaye de mettre au point un cours d'éthique clinique. Alors l'éthique clinique, c'est toutes les données morales qui régissent le comportement des médecins au chevet des patients. En gros, le premier principe d'éthique clinique, c'est d'abord ne pas nuire. C'est-à-dire, un patient vient vous voir, la première chose que vous devez faire, c'est ne pas aggraver sa situation. Et ça, c'est un principe d'éthique, c'est un principe moral. D'abord, ne pas nuire. Alors après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres principes qui sont greffés là-dessus. Et je suis en train de mettre au point un module d'éthique clinique pour les étudiants en médecine qui va utiliser des séquences de Dr. House, de Urgence, de Scrubs, de Grey's Anatomy, bien entendu, évidemment. ça va sans dire. Mais d'autres séries aussi, pour illustrer les situations de conflit ou les cas de conscience qui peuvent se présenter aux médecins.
Alors du coup, Blanche est venue nous rejoindre. Alors tous ses élèves ont lu certains de vos livres, dont Le cœur des femmes et En souvenir d'André. Et donc Blanche a préparé une question pour vous.
Oui, médecin, écrivain, c'est rare. Alors comment, alors que vous aviez suivi pendant une dizaine d'années des études scientifiques, en êtes-vous venu à la littérature ?
Parce qu'en fait, j'ai commencé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans. J'écrivais des nouvelles au début, après j'ai tenu mon journal. Dans mon journal, j'ai commencé à dire « Ouais, tel prof, c'est un salopard !» Enfin, je l'écrivais pas comme ça, mais c'était un peu le sens. « Tel ministre, c'est un imbécile !» etc. Bon. Et puis, après, j'ai passé un an aux États-Unis où le fait d'écrire n'était pas considéré comme, nul et non avenu. Au contraire, on m'a fait écrire des nouvelles. J'ai appris à taper à la machine. Vous, ça vous dit rien d'apprendre à taper à la machine, mais à l'époque où j'étais lycéen, il y avait que les filles qui apprenaient à taper à la machine quand elles faisaient une section secrétariat. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, évidemment. Et un garçon qui apprenait à taper à la machine, on lui disait « Tu veux devenir secrétaire ?» Je dis non, parce que quand tu tapes à la machine, tu écris beaucoup plus vite. Et ensuite, je suis passé à l'ordinateur très facilement. Et aux États-Unis, quand on m'a dit écrivez des nouvelles, évidemment, moi, mes nouvelles, je pouvais les écrire beaucoup plus vite parce que je tapais à la machine après aussi. Donc, j'avais une expérience d'écriture, même si j'étais pas un écrivain professionnel, avant de commencer médecine. Et évidemment, quand j'ai commencé médecine, j'ai pas arrêté d'écrire. Je veux dire, c'est comme un instrument de musique. Vous apprenez un instrument de musique, vous allez faire des études, vous l'apprenez dans l'enfance. Après, vous allez continuer à jouer de votre instrument. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et sur votre carte de visite, il y a plutôt médecin ou écrivain ?
Sur ma carte de visite, il y a mon nom. Je n'ai pas de carte de visite.
Eh bien, voilà, il faut y s'en
J'ai pas de carte de visite.
Mais vous êtes toujours médecin ?
J'ai été médecin en exercice. Je suis toujours médecin, puisque oui, je suis toujours diplômé. Je n'ai pas perdu mon diplôme.
En exercice ?
Mais pas au Canada. J'ai été médecin en exercice fin 2008 en France. Et depuis 2009, je vis à Montréal. Là, j'exerce pas parce qu'en fait, je voulais aller d'abord enseigner, c'est-à-dire en particulier enseigner aux étudiants en médecine. En ce moment, je donne des cours d'écriture, des ateliers d'écriture pour étudiants en médecine. Ils écrivent des trucs incroyables. il y en a, les anglophones en particulier sont beaucoup plus forts parce qu'ils sont beaucoup moins, comment dirais-je, bridés que les francophones, parce que je donne à des étudiants francophones et des étudiants anglophones, et ils écrivent des trucs incroyables. C'est vraiment, ils sont très très doués.
Mais ça, ça sert à quoi de donner des cours d'écriture?
C'est à moi que vous demandez ça?
Bien sûr.
Ça sert à quoi? Ben, ça sert comme si. Je pense que si j'étais musicien, je leur donnerais des cours de musique. Un professionnel de santé qui n'a que sa profession de santé dans la tête ne peut pas être un bon professionnel de santé. Tout simplement parce qu'il faut qu'il puisse lui-même s'exprimer autrement. Sous d'autres formes. D'abord, quand il est professionnel de santé, il n'est pas là pour s'exprimer, il est là pour soigner. Donc, ce qu'il a à dire de personnel, de profond, d'émotionnel, de sensible, il ne va pas le dire au patient. Le patient, il en a rien à foutre et il faut qu'il lui foute la paix avec ses idées. Mais lui, il a besoin de s'exprimer à certains moments, il a besoin d'avoir des amis, il a besoin de faire quelque chose. J'ai un copain qui est cardiologue à Orléans, qui est un très bon cardiologue. Il dit, je suis cardiologue de famille, parce que il fait de la médecine de famille en cardiologie. Et il est auteur, compositeur, interprète. Il écrit des chansons. Et il les chante, et il a même fait un disque il n'y a pas très longtemps. Et il est très heureux parce qu'il fait ça aussi. Donc c'est très important. Alors l'autre raison, c'est que c'est très important dans les professions de santé d'écrire et de mettre sur le papier les choses un peu choquantes qu'on a vécues pour pouvoir justement s'en libérer un peu. Et puis il y a aussi une autre raison toute simple, c'est que plus on transmet l'expérience, et plus cette expérience, elle peut servir à d'autres. Si on garde tout ce qu'on a vécu pour soi, c'est perdu.
C'est ce que vous faites notamment dans Souvenir d'André, où effectivement le médecin collecte les histoires des gens qui l'aident à mourir.
Voilà, l'idée c'est ça, c'est que toute personne qui va disparaître est une personne qui a beaucoup de choses à dire et qu'on devrait être là pour écouter ce qu'elle a à dire quand c'est possible, bien entendu. Donc c'est effectivement dans Souvenir d'André, c'est le sens du livre, et en particulier c'est le sens du livre pour les gens. Enfin, j'ai eu deux expériences comme ça. La première, c'est un de mes amis qui avait un an de moins que moi, qui a fait médecine à Tours aussi, et puis qui a fini ses études au Mans comme moi. Avant qu'il ait 30 ans, il en avait peut-être 27 ou 28, s'est suicidé. Il s'est suicidé pour des raisons compliquées qu'on n'élucidera jamais complètement, mais il a laissé à ses parents une lettre de 7 ou 8 pages, et ses parents m'ont fait l'amitié de me donner une copie de la lettre. Et je me suis toujours dit, mais ce garçon, s'il avait pu parler à des gens proches de ce qui lui arrivait, peut-être qu'il aurait eu moins envie de se tuer. J'en sais rien, hein. On essaye toujours de réparer ça a posteriori. Et je me dis, quand on voit ce qu'il a écrit dans sa lettre, et il faisait partie de l'équipe qui faisait la revue underground d'étudiants en médecine dans les années 70, il s'appelait Olivier Monceau. Quand Olivier était dans la revue, il écrivait, il écrivait très bien. C'était quelqu'un qui écrivait vraiment très bien. C'était un très bon médecin et c'était quelqu'un qui écrivait très bien. Et je me dis, c'est dommage parce que tout est perdu. Je veux dire, on a des souvenirs de lui, mais tout ce qu'il aurait pu produire de plus créatif et de plus important à partager avec nous, on ne sait jamais combien de temps on va vivre, mais c'est perdu. Et puis l'autre expérience que j'ai faite, c'est que mon père, qui était quelqu'un de très important pour moi, à l'âge de 67-68 ans, a commencé à pas aller bien. Et là, je me suis dit, avec mon frère, je me suis dit, on va l'enregistrer. On va lui demander de raconter sa vie. Donc, on a pris un magnétophone à cassette à l'époque. Et puis, maintenant, c'est encore plus facile. Vous prenez votre téléphone. Vous voulez enregistrer vos grands-parents. Vous avez des grands-parents qui sont en vie. Allez leur faire raconter leur vie. C'est inestimable. Aujourd'hui, peut-être que ça vous intéresse pas. Mais dans 15 ans ou 20 ans, vous vous direz, ah, comme j'ai bien fait, parce qu'ils seront plus là et vous pourrez plus leur poser des questions. Aujourd'hui, c'est encore plus facile. On prend le téléphone, on le met sur enregistreur, on enregistre. Et donc, je suis allé avec mon magnétophone à cassette, et puis on a interrogé mon père, on lui a fait raconter sa vie. Et bien m'en a pris, parce que, au bout de 2-3 ans, il était malade, il est mort. Et puis, j'en ai rien fait pour le moment, j'ai gardé mes cassettes, mais 20 ans plus tard, j'ai écrit un livre dans lequel j'ai retrouvé toute l'histoire familiale, grâce en particulier à ces cassettes. Si je l'avais pas fait, tout ça aurait été perdu.
C'est dans Plume d'Ange.
Dans Plume d'Ange. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important, effectivement, de suggérer aux gens qui en ont envie, évidemment, d'écrire. Mais ça peut être de peindre ou de faire de la musique. L'important étant que toute l'expérience que nous avons, nous pouvons la faire passer au travers de quelque chose de créatif, qui peut être très varié. Hein. Ça peut être un film. J'ai des copains de médecine qui ont fait des films, des petits films. J'ai un copain qui n'était pas en médecine d'ailleurs. Sa femme, ils ont 6 enfants, sa femme fait un album ils ont toujours fait plein de photos, mais elle fait un album chaque fois qu'un de ses enfants arrive à l'âge de 25 ans. Et c'est les 25 premières années de l'enfant. Il y en a déjà 3. Et c'est incroyable. Et c'est un truc créatif qui va rester. C'est-à-dire que même quand sa mère sera morte, chacun de ses enfants auront ça. Et ils auront à la fois leur souvenir de quand ils étaient enfants et le souvenir de leur mère. Bon, donc il y a de multiples manières de s'exprimer. Moi, la mienne, c'est l'écriture. Donc j'invite évidemment les gens à écrire. Et quand je peux les inciter à le faire et leur donner des trucs pour que ça aille plus vite, je le fais.
Puis en fait, être médecin, c'est quand même être face à un réservoir d'histoires absolument infini.
Alors il y a ça aussi, effectivement, c'est que ce qui est le plus intéressant quand on est médecin, c'est que les gens vous racontent leur histoire. Il y a même maintenant des écoles de pensée en médecine qui disent que c'est beaucoup plus important de laisser le patient raconter son histoire que de l'interrompre et de lui poser des questions médicales. Parce qu'en fait, il va vous dire pourquoi il vient, même s'il ne sait pas exactement, l'histoire qu'il va vous raconter va vous donner de bons indices, de meilleurs indices que si vous commencez à lui demander où est-ce que vous avez mal. Parce que peut-être qu'il a mal. Il y a un truc trop bête, hein, c'est que un type s'amène en vous disant j'ai mal au gros orteil là. Puis j'ai un mal de chien au gros orteil chaque fois que je marche. Ça se calme seulement quand je m'allonge. Ben, il a mal au gros orteil, mais en fait c'est une sciatique, ça se passe dans la colonne vertébrale. Il y a ce qu'on appelle des douleurs projetées. C'est-à-dire la douleur, l'endroit de la douleur, c'est pas forcément là où ça se passe. C'est parce que le cerveau interprète ça comme venant du bout du pied, mais en fait ça vient de là. Parce que le cerveau fait des erreurs d'appréciation. Et donc, quand on fait parler les gens, on a une bien meilleure idée de la raison pour laquelle ils viennent que quand on leur pose des questions. Donc moi, je fais partie de ce type d'école de pensée qui invite le plus souvent possible les gens à raconter leur histoire.
Alors, en quoi votre pratique de la médecine influence-t-elle votre écriture et vice-versa ?
Ça, c'est difficile à dire parce que comme ça a toujours été simultané, disons qu'au début, j'écrivais parce que quand je suis rentré en médecine et que j'écrivais surtout pour moi, pour vider un peu le trop-plein. Je tenais un journal déjà avant, donc chaque fois que j'avais un chagrin d'amour, j'écrivais dans mon journal, ça allait mieux déjà après. C'est formidable parce que quand on déteste quelqu'un, il suffit de l'assassiner par écrit et puis ça fait un bien fou, je veux dire. Et par exemple, dans mes romans, c'est pareil. Les gens que je détestais, je les ai assassinés dans mes romans. Il n'y a pas de sang, personne n'y voit rien. Des fois, ils se rendent compte que c'est eux, alors ils s'étranglent, mais ils s'étranglent tout seuls. Donc écrire, ça avait au départ une fonction surtout pour moi. Après, je me suis rendu compte, mais ça, il a fallu que j'ai la chance d'avoir des lecteurs, et j'en ai eu, et c'est de la chance hein, d'avoir beaucoup de lecteurs, que les lecteurs viennent me voir en me disant, mais moi, ça m'a fait du bien pour tel et tel type de raison. Alors ça, on ne peut pas le contrôler. On écrit des textes, et puis les gens lisent les textes, et puis ça leur fait quelque chose, et des fois ça leur fait du bien, des fois ça leur fait du mal, des fois ils savent pas exactement ce que ça leur fait. Et puis c'est eux qui vous le disent, c'est pas vous, vous en savez rien. Alors, par rapport à ma pratique de médecin, le fait d'écrire, ça m'a beaucoup aidé à me mettre les idées en place. Par exemple, mon premier roman était un roman que j'ai écrit parce que je pratiquais des avortements depuis... Ben, j'ai commencé en 83, le roman je l'ai écrit en 87-88, donc depuis 5 ans.
Donc la vacation.
La vacation. Et je me demandais ce que je foutais là. J'étais persuadé qu'il fallait que l'avortement soit légal, j'étais persuadé qu'il fallait qu'on le fasse médicalement pour que les femmes souffrent pas et que ce soit pas une catastrophe pour elles, j'étais persuadé que les femmes avaient le droit de choisir, j'avais pas de problème idéologique par rapport à ça, mais je me posais la question de savoir ce que je faisais là, moi en tant qu'homme, à pratiquer des interruptions de grossesse sur des femmes, c'est-à-dire j'aurais été une femme. J'aurais pu me dire, je le fais par sororité, hein, par identification aux femmes, mais j'étais un homme. Je le faisais pas pour réparer quelque chose parce que j'ai jamais mis enceinte, comme on dit, une de mes copines. À l'époque, on se préoccupait beaucoup de contraception, donc on avait toujours des capotes sur nous. Il n'y avait pas le sida. Il y avait des maladies sexuellement transmissibles, mais ça se soignait avec les antibiotiques. J'avais toujours des capotes sur moi. Je demandais toujours aux filles avec qui j'allais coucher. Dans les années 70, on couchait beaucoup. Je demandais toujours est-ce que tu prends la pilule ou pas, parce que c'était ça le problème. Est-ce que si t'es enceinte juste avant qu'il y ait la loi Veil, c'était quand même, et puis même au début, c'était quand même pas de la tarte d'aller interrompre une grossesse, surtout quand on était mineur. L'âge de la majorité, c'était pas 18 ans, c'était 21 à l'époque. Mais on était en fac déjà à 18 ans ou 17 ans. Donc il y avait toute une zone floue dans laquelle on était encore sous la dépendance de ses parents. C'est pour ça que, par exemple, j'ai milité pour que les mineurs en France puissent demander une interruption de grossesse sans autorisation des parents. Parce que les parents, ils n'ont rien à voir là-dedans. Les femmes mineures, elles doivent pouvoir aller demander une IVG sans en parler à leurs parents. D'abord, elles ne demandent pas à leurs parents si elles doivent aller coucher avec leurs copains ou pas. Alors, bon. Donc, moi, j'étais pour la liberté. Mais qu'est-ce que je faisais là, moi, en tant que médecin et en tant qu'homme ? Quand j'ai écrit le roman, je l'ai écrit pour essayer de comprendre ça. Et je l'ai fait donc d'abord en décrivant ce que fait le médecin, et puis ensuite en décrivant mes sensations et mes sentiments par rapport à cette activité. Et puis finalement, j'ai fini par comprendre à quoi ça servait. Alors le fait de le construire sous la forme d'un roman, ça m'a aidé d'abord à devenir un peu plus, être un peu plus en paix par rapport à ça, et puis aussi à comprendre pourquoi j'étais là, à quoi ça servait, quelle était ma fonction. Et en particulier, j'ai compris que c'est vrai qu'un avortement, quand on fait un avortement par aspiration, c'est pas un soin en soi. Mais tout ce qui précède, la façon dont on accueille la femme, la façon dont on l'écoute, la façon dont on ne la juge pas, la façon dont on la rassure, la façon dont on lui explique la démarche, tout ce qui se passe pendant, c'est-à-dire le fait qu'on fait en sorte qu'elle souffre pas, qu'elle soit pas trop triste, etc. Et après, encore une fois, on l'entoure, on lui explique des trucs, on lui donne les méthodes de contraception pour qu'elle n'ait pas besoin d'être enceinte, d'avoir une IVG à nouveau et qu'elle ne soit pas enceinte à nouveau. Tout ça, c'est du soin. C'est pas l'IVG, c'est tout ce qui est autour. Et ça, c'est en écrivant le livre que j'en ai pris conscience. Je le savais intuitivement, mais en l'écrivant, là, je me suis dit, bah oui, faut pas se focaliser là-dessus. Le soin, c'est tout ce qui précède, tout ce qui entoure. Et donc, écrire, ça sert en particulier à ça.
Alors on va continuer à parler avec Martin Winkler, artiste engagé, même s'il va nous dire que non, mais quand on l'entend là depuis un quart d'heure, 20 minutes.
Si, je suis engagé, mais je vais vous dire, c'est la première fois qu'on me traite d'écrivain engagé.
On va continuer à le traiter.
Non. Moi je suis très content. Mais je pensais que c'était une expression qui avait disparu. Pour moi, les écrivains engagés, c'était Camus, c'était Sartre, c'était Simone de Beauvoir, c'était des gens comme ça.
Et Martin Winkler.
Il y en a d'autres, mais je veux dire, ça c'est les gens dans l'admiration de qui j'ai. Mais depuis 25 ans. C'est une expression qui a disparu, écrivain engagé.
On est complètement ringard.
Non, je pense que c'est toujours d'actualité, mais dans les discours généraux, l'écrivain engagé, et c'est vrai qu'il y a plein d'écrivains qui veulent surtout pas dire pour qui ils votent, qui veulent surtout pas dire oui, moi je suis pour l'IVG ou contre, d'ailleurs ils ont le droit d'être contre, alors que je m'en suis jamais, moi personnellement, je me suis jamais caché des choses pour lesquelles j'étais engagé. Mais quand les gens viennent me voir, ils me disent pas « Ah, vous êtes un écrivain engagé », ils me disent « Ah ouais, vous êtes le médecin qui écrit ». Je trouve ça, ça me rajeunit.
Ou que vous me traitiez qui soigne.
Ça me rajeunit que vous me traitiez d'écrivain engagé, je suis ravi, il n'y a pas de problème.
Alors on écoute des artistes engagés, en tout cas engagés pour le prochain Au quart de tour qui aura lieu en juin, je dis ça pour le public là, qui
est présent. Du
9 au 13 juin, c'est Asia Dump Foundation.
Et Zigzag Nation.
Living in a zigzag nation, living between zigzag lines, living through zigzag times. It might be hard, but it's better than straight lines. It's better than straight lines. All the
Retour au lycée Descartes en direct du CDI du lycée Descartes. Je dis ça pour les élèves qui nous écoutent en cours et qui
rejoignez-nous. Quittez vos cours.
Rejoignez-nous parce qu'on est comme ça. On est
des gens qui écoutent en cours.
Bah bien sûr.
Sur leur, bah oui, ils font semblant avec leurs écouteurs. Sur leur ils font du pod.
Qu'est-ce qu'ils font d'autre?
Donc on va maintenant. Donc on a justement une autre élève qui nous a rejoint. Donc Esther hein, qui a préparé une question pour vous, Martin Winkler.
Je vous écoute.
Dans En souvenir d'André, vous semblez prendre clairement parti en faveur du suicide assisté.
Oui.
Menez-vous également une action politique pour ce combat ou pensez-vous que la littérature seule suffit à faire avancer les choses? Et seriez-vous d'accord pour participer à une commission qui travaillerait sur un texte de loi sur le sujet?
Je suis un militant et un écrivain engagé, mais je ne crois pas que je pourrais devenir un homme politique dans le sens où, par exemple, je ne veux pas être sur une liste électorale. Je ne veux pas être un élu. C'est quelque chose qui est complètement... Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire élire, hein, mais moi, personnellement, je n'ai pas envie. Vraiment, c'est un truc que je ne veux pas. Je ne veux pas parler pour les autres en étant au-dessus d'eux et prendre des décisions pour les autres. Cela dit, je ne pense pas que la littérature non plus soit suffisante. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait des gens qui militent au plan politique et puis la littérature aussi, mais aussi le théâtre, le cinéma, la musique. Bon. Est-ce que j'accepterais de travailler dans une commission? Oui, bien sûr, parce que je pense que au Québec, par exemple, au Québec, il y a eu une loi qui a été promulguée il n'y a pas très longtemps sur l'assistance médicale à mourir, et la Cour suprême du Canada a rendu un arrêté il y a 15 jours, 3 semaines, disant que pénaliser les médecins qui aident, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas aider les gens à mourir, les médecins qui aideraient les gens à mourir au Canada seraient poursuivis par le code criminel. Mais ils ont dit pénaliser les médecins qui aident les gens à mourir, et en particulier les gens qui ne peuvent pas se tuer eux-mêmes, c'est une discrimination contre ces personnes. Pourquoi? Parce que, après tout, tout citoyen, au Canada, il y a la Charte des droits et libertés qui dit tout citoyen a les mêmes droits. Si vous voulez vous suicider, c'est votre droit. Si vous faites ce que vous faites, ce que vous voulez de votre corps. Mais si vous êtes dans l'incapacité de mettre fin à vos jours, et de mettre fin à vos jours de manière paisible, et qu'on empêche un médecin de vous aider à mettre fin à vos jours, c'est une discrimination. Par conséquent, ils viennent d'annuler la criminalisation de l'aide médicale à mourir, ce qui veut dire que, dans les faits, bientôt, l'euthanasie va être autorisée, alors encadrée probablement, va être euthanasée au Canada, parce que ça sera l'euthanasie le suicide assisté plus exactement. Non pas on tue les gens parce qu'ils sont dans le coma, mais des gens qui auront décidé de mourir pourront choisir de mourir avec l'aide d'un médecin. C'est ça en particulier. L'euthanasie, ça recouvre, le problème du mot euthanasie, c'est qu'il recouvre beaucoup de choses différentes, et en particulier le fait que les médecins puissent accélérer un peu la mort de quelqu'un s'ils trouvent que vraiment il traîne trop. Ça, c'est plus problématique parce que, à mon avis, il faut toujours que ce soit la première personne concernée qui décide. Je vous donne un autre exemple. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont décidé d'être donneurs d'organes si jamais ils ont un accident et qu'ils perdent leurs organes. En fait, en France, vous êtes réputé être donneur d'organes, sauf si vous dites le contraire. Dans les faits, heureusement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que si votre famille est contre, on va pas vous prélever vos organes. Mais vous pouvez faire un choix, volontaire, d'être donneur d'organes en disant, si j'ai un accident de voiture et que j'ai le cerveau écrabouillé et que je suis en bonne santé par ailleurs, qu'on prenne mes reins, qu'on prenne mes poumons, qu'on prenne ma peau ou mes cornets, etc., et puis qu'on les donne à des gens qui en ont besoin. Pourquoi pas? C'est donc un choix délibéré, un choix libre. Il n'y a aucune raison que vous puissiez pas aussi faire le choix de mourir si votre vie ne vous paraît plus la peine d'être vécue. Il n'y a aucune raison de le faire paisiblement, c'est-à-dire non pas en vous jetant par la fenêtre ou en vous pendant, en vous tirant une balle dans la tête, mais en prenant quelque chose qui vous endormira. De la même manière qu'il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas libre de décider « je ne veux pas avoir d'enfant et je veux me faire stériliser ». D'ailleurs, la loi en France vous autorise à le faire à partir de l'âge de 18 ans.
Mais c'est difficile.
Mais c'est très difficile parce que les médecins font des objections. Alors que moi, je trouve pas plus grave de décider de pas avoir d'enfant que de décider de commencer une grossesse à 18 ans. C'est même plus grave de décider d'avoir un enfant, parce que c'est grave pour l'enfant qui a rien demandé, qui n'a pas demandé à venir au monde. C'est grave pour le partenaire, etc. Bon, c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, la notion de liberté individuelle, pour moi, est très importante, et on peut décider à l'avance. On dit aux gens de faire leur testament, par exemple. Hein, gens se marient, ils ont des enfants, on leur dit vous devriez faire un testament parce que si vous mourrez, faut que vous sachiez où va votre argent, etc. Ça choque personne. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas aussi décider à l'avance de la manière dont on veut mourir si on est dans des conditions particulières qui nous interdisent de les décider à ce moment-là. Or en France, dans les faits, on peut pas faire ça. Et ça, c'est problématique. Parce que c'est un obstacle à la liberté individuelle. Ça fait partie de la liberté individuelle. Alors oui, je serais ravi de participer à une commission sur le sujet, mais je suis pas sûr, par exemple, que... moi, j'ai une position qui est très proche de celle des anglo-saxons. En France, on est quand même beaucoup plus paternaliste, c'est-à-dire que les gens qui font partie de l'élite, en général, pensent qu'ils savent mieux que les autres ce qui est bon pour eux.
Donc, ils pas sûr qu'on vous le propose, donc.
Oh, je suis persuadé qu'on ne me le proposera jamais. Puis c'est toute une démarche de faire partie de, ne serait-ce que d'être conseiller d'un ministre, par exemple, c'est toute une démarche qui fait que vous êtes déjà dans l'entourage plus ou moins du ministre ou des hommes politiques en question, et puis il y en a un qui va dire, tiens, lui, on va lui demander. Moi, j'ai jamais été dans ce type d'entourage et ça m'intéresse pas.
Ça veut dire que vous, par exemple, aucun politique vous a jamais interrogé ?
Si, j'ai été interrogé, par exemple, à deux reprises à cause de, autour de l'IVG et de la... c'était en 2000. En 2001, on a prolongé les délais d'IVG, on est passé de 10 à 12 semaines, et on a supprimé l'autorisation parentale. On a remplacé ça comme une mineure qui demande une IVG doit simplement être accompagnée par une personne adulte qui lui sert de référent. Mais du coup, la personne adulte, ça peut être le médecin lui-même. Ce qui veut dire que dans les faits, une mineure qui demande une IVG n'a plus besoin de l'autorisation de ses parents. Donc elle n'a pas besoin de les mettre au courant. Et j'ai été interrogé à deux reprises, une fois par le Sénat, il y avait une commission du Sénat qui explorait ça, et puis une fois par Martine Aubry herself, qui était ministre des Affaires sociales à l'époque, et qui m'a demandé ce que vous en pensez. Bon, tout ça parce que j'avais acquis une certaine notoriété, parce que je m'exprimais sur le sujet. Et j'étais un des rares médecins français qui écrivait sur le sujet, qui m'exprimait sur le sujet, puis qui n'avait pas changé d'opinion depuis, puis qui n'était pas non plus trop paternaliste.
Alors, ce paternalisme, alors je passe peut-être très personnel comme question, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est ce qui vous a fait quitter la France, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un pays où il est très très dur de faire bouger les choses ?
Non, j'ai pas quitté la France par rejet de la France, j'ai quitté la France parce que je voulais enseigner. Je voulais aller dans les facs de médecine et enseigner ce que je savais aux étudiants en médecine. Et en fac de médecine en France, si vous êtes un type comme moi, c'est-à-dire un type qui est très critique avec la formation médicale, on ne veut pas que vous soyez là. On ne veut pas vous faire rentrer pour foutre le boxon parmi les étudiants et entretenir la révolte, quoi. Ce que j'aurais certainement fait. J'aurais certainement entretenu la révolte. En revanche, au Québec, où j'allais régulièrement tous les ans, pour diverses raisons, pour des colloques, pour des congrès, pour des séminaires, pour tout ce que vous voulez, on me disait, vous devriez venir enseigner ou faire des recherches. Et moi, j'avais très envie d'enseigner et de faire des recherches. Quand j'ai eu une occasion de partir, je suis parti. Et puis comme ma famille, toute ma famille, mon épouse et puis les enfants avaient tous envie de faire le voyage, il n'y avait pas de problème, donc on a fait nos paquets, on a mis tout dans les cartons, on a donné la maison en location et puis on est parti. Et on en est très heureux parce que mes enfants, ils ont rencontré un autre système scolaire où ils sont très heureux. Ma femme a eu un boulot tout de suite et puis moi j'ai commencé à non seulement à faire des recherches mais aussi à donner des enseignements. Donc voilà. Et ça, c'est des choses que je ne pourrais pas faire en France. Si ça avait été possible, je serais resté. Mais on me propose de faire ailleurs, de faire quelque chose que je peux pas faire dans un pays qui est sympathique. Et je veux dire, j'avais déjà 50 ans, je l'aurais pas fait à 70 ans. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse d'aujourd'hui, puisque vous enseignez la révolte à des jeunes? Vous avez l'impression qu'ils sont prêts à se révolter ou la tarte à la crème qu'on entend tout le temps en disant qu'ils acceptent la société comme elle est? C'est ce que vous voyez?
Mais quand j'avais 17 ans. D'abord, je m'exprimais pas ouvertement. Quand j'ai été en fac de médecine, j'ai commencé à faire du bruit, mais avant, je disais pas grand chose, je savais pas quoi dire, j'avais l'impression que c'était pas légitime, ou que j'avais pas le droit de le faire, ou que c'était pas intéressant ce que j'avais à dire. J'avais des copains qui étaient plus ou moins agités, mais on se cherche quand on est adolescent. Ça veut pas dire qu'on est passif. C'est pas parce qu'on est silencieux qu'on est passif dans la tête. ça bouillonne. Mais des fois, il n'y a pas de moyen de s'exprimer, il n'y a pas de gens pour vous écouter, il n'y a pas de lieu pour s'exprimer. Cela étant, je suis sûr qu'il y en a qui font de la musique ou du théâtre ici. Voilà, qui écrit, qui tient un journal ou un blog, enfin, c'est la même. Aujourd'hui, ce serait un blog. Bon, ben voilà, je veux dire, qui dessine? Tiens, vous dessinez, non? Voilà, bon. Ils ont tous des moyens d'expression. Qui fait du sport? Voilà. Voilà, on a tout le monde là. Ils ont tous des modes d'expression. C'est en germe, c'est pas encore. Mais il y en a qui, pour ce que vous en savez, dans 10 ans, il y en aura peut-être un qui fera des dessins dans un magazine, l'autre qui écrira des chroniques ou qui sera le blogueur du moment ou la blogueuse du moment. Bon, je crois. Enfin, moi, j'ai pas d'opinion sur la jeunesse parce que je sais pas ce que c'est. Il y a que des individus. Ce que je sais, c'est qu'il y en a qui seront des révoltés, et puis il y en a d'autres qui seront des gens moins révoltés. Je veux ostraciser personne.
Alors Sofiane est venue nous rejoindre, donc tu as préparé aussi une question.
Oui, moi aussi j'ai une question. Qu'est-ce que la femme romanesque apporte de plus au message que vous voulez faire passer?
Alors, je vais te donner la réponse que j'ai aujourd'hui et qui n'est peut-être pas une réponse définitive, que j'ai mis longtemps à élaborer, parce que par exemple, quand j'ai publié le premier livre qui m'a fait connaître, La maladie de Sachs, je ne me posais pas cette question-là. J'étais très surpris d'ailleurs qu'un roman touche autant de gens. Pour moi, le roman, c'était un truc un peu élitiste, donc j'allais toucher. Bon. Et puis là, d'un seul coup, bam, un best-seller. Alors, tu te dis, attends, c'est quoi la recette, tu vois? J'ai mis un peu plus de sel, un peu plus de poivre, un peu plus de moutarde, et puis bon. Et en fait, je crois que ce qui se passe, c'est que, depuis, j'ai lu beaucoup là-dessus, je crois que ce qui se passe, c'est que il y a différentes formes d'écriture. Tu peux écrire un essai, c'est-à-dire quelque chose, une réflexion sur une situation, et tu peux faire un très bon essai dans lequel tu vas faire passer plein d'idées. Mais fondamentalement, tu vas faire passer des idées. Tu peux écrire un témoignage, et là, tu vas faire passer essentiellement des histoires et des émotions. Puis tu peux écrire un roman, et dans le roman, tu peux faire passer tout ça à la fois. Et à mon avis, la forme romanesque, elle a ceci de particulier, qu'elle canalise toutes les autres formes d'expression, des idées, des faits. Tu peux mettre du savoir dans un roman. Hein. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le cœur des femmes, où tous les faits médicaux dont je parle sont avérés, ils sont démontrés. C'est une sorte de manuel. Pour les étudiants en médecine, ils lisent ça, ils apprennent plein de trucs dedans. Bon. Les non-étudiants aussi. Donc tu peux mettre des faits, tu peux mettre des notions extrêmement complexes, tu peux mettre de la philosophie, tu peux mettre des tas de choses. Et c'est la forme qui permet de tout mettre à la fois, y compris les émotions. C'est-à-dire de faire résonner les émotions des lecteurs avec les émotions des personnages. Et pour moi, c'est donc la forme dans laquelle je peux mettre le plus de choses. Et j'ai pratiqué toutes les autres. C'est-à-dire, j'ai écrit des pièces de radio radiophoniques où il n'y a que des gens qui parlent, j'ai écrit des contes pour enfants, j'ai écrit des essais, j'ai écrit des critiques, j'ai écrit des tas de choses. Pas toutes les autres, mais j'ai écrit beaucoup de choses différentes. C'est celle-là dans laquelle je peux mettre le plus de choses à la fois.
Merci. Alors, on va faire une deuxième pause et on va écouter donc à nouveau un artiste programmé sur Ocar, je te laisse le dire.
Andrea Tenderly. Hop, hop, on est back,
on est back au
lycée Descartes en direct du CDI pour la troisième et dernière partie.
Et c'est sa dernière partie que va brillamment inaugurer Léopold qui nous a rejoint autour de la table avec donc une question pour vous, Martin Vinclair.
Il m'a l'air tranquille, Léopold, t'as vu ?
Complètement.
Alors, d'où vous vient votre intérêt pour les séries télévisées ?
Aha.
Alors là, il y a comme un blanc.
Non, c'est mon intérêt, c'est tout simple. J'ai commencé à regarder des séries télévisées quand j'avais 12 ans. Donc, et dans mon esprit, il n'y avait pas de différence fondamentale entre les séries télé, les romans policiers, les bandes dessinées, le cinéma. J'avais de la chance, ma mère nous avait pris une ou deux années de suite, ma mère nous a pris un abonnement à la Comédie Française. Donc tous les jeudis, elle nous emmenait à la Comédie Française. On faisait le voyage de Pithiviers à Paris, 80 km, pour aller à la Comédie Française. J'adorais le théâtre. Je ne voyais pas de différence. Pour moi, c'était des histoires. Donc, j'ai commencé à regarder des séries télévisées très jeunes. Je regardais des séries qui sont maintenant des classiques. Et puis, après, je suis allé un an aux États-Unis. Alors là, j'ai fait la... Je suis un des rares jeunes français des années 70 qui a vu tout Star Trek. Star Trek classique, qui avait déjà 5 ou 6 ans, mais qui est rediffusé en boucle à Minneapolis, là où j'étais. Les Mystères de l'Ouest, tout ce que vous voulez. Et je regardais Le Prisonnier, qui est une grande série classique britannique. Je regardais Le Prisonnier assis entre les jambes de mon père quand j'avais 10 ans, donc, ou 11 ans. Donc ça remonte à très loin. Après mes études de médecine et quand je me suis installé, c'est le moment où la télé française est passée de 3 chaînes à 6 ou 7.
Waouh.
Et les 3 chaînes nationales, gouvernementales, sélectionnaient très soigneusement ce qu'elles montraient, mais quand il y a eu des chaînes privées qui sont arrivées, toutes les chaînes privées ont acheté plein de téléséries. Et là, on a vu des téléséries qui avaient été diffusées aux États-Unis ou en Angleterre et qu'on n'avait jamais vues en France. On en a revu d'autres. Et là, je me suis mis à revoir une télésérie que je regardais quand j'étais gamin, qui s'appelle Mission Impossible. Et quand j'étais gamin, je trouvais que c'était vraiment bien foutu, c'était bon. Mais j'étais incapable de dire pourquoi. À 30 ans, là, je pouvais dire pourquoi. Et je me suis mis à regarder Mission Impossible de façon très précise. Et j'ai compris pourquoi c'était bien. Parce que j'ai commencé à regarder sous le capot, quoi. Bon. Parce que là, j'avais une certaine expérience d'écriture et de lecture, et là, je pouvais le dire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, quelqu'un commençait à publier des livres sur les téléséries, un éditeur. Je leur ai écrit en leur disant, écoutez, là vous faites que des téléséries anglaises, ils avaient fait Le Prisonnier, Chapeau Long et Bottes de Cuir, etc. Je leur ai dit, mais la prochaine que vous faites, si vous faites une série américaine, il faut faire Mission Impossible. Et je leur ai fait un synopsis de 6 pages pour leur dire comment il fallait l'écrire le bouquin. Pas gonfler le mec. Et puis, 6 ou 8 mois plus tard, un des auteurs de la maison d'édition me téléphone en me disant, nos lecteurs veulent un livre sur Mission Impossible, est-ce que vous voulez l'écrire avec nous? Je dis, oui, bien sûr, évidemment, cette blague. Donc, ça a été mon premier livre. Et à partir de ce moment-là, la chose a été enclenchée, j'en ai écrit d'autres. Après, j'ai été critique dans une revue, dans Télécap Satellite Hebdo, où ils cherchaient un critique pour faire une page sur les téléséries. C'était la première page en France, dans un magazine de télé consacré entièrement aux téléséries. Et puis, on m'a proposé, je dis oui, et puis j'ai tenu ça pendant 7 ans. Donc, c'est devenu une activité d'écriture. Vous voyez bien que le fait d'écrire, ça me facilitait les choses. Parce que j'avais une habitude d'écriture, et je pouvais l'appliquer à la critique de téléséries. Et puis, c'est devenu aussi un engagement pour dire, les téléséries, c'est pas juste un truc avec lequel on se nettoie la tête, c'est des histoires qui sont bien racontées, c'est des histoires qui parlent du monde d'aujourd'hui, même quand c'est des histoires transposées. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que les luttes de pouvoir, vous regardez Game of Thrones. Si vous voulez savoir ce que c'est que la médecine, vous regardez Grey's Anatomy ou Dr. House. Si vous voulez savoir ce que c'est que la politique, vous regardez The Good Wife et West Wing ou House of Cards, ou etc. Alors, c'est à partir du moment où vous connaissez l'univers et où vous voyez que c'est pas juste des petites histoires, mais que c'est des histoires de longue durée, c'est les plus grandes histoires qu'on écrive actuellement, les téléséries.
Parce que vous a jamais proposé d'en écrire ?
Si, mais en France, c'était pas possible, parce qu'en France, on a les pires téléséries de la planète, parce qu'on a la pire télévision de la planète. Même les Danois font mieux que nous, et pourtant, ils ont moins d'argent. Les Anglais, n'en parlons pas. Je veux dire, y a déjà 12 séries américaines qui parlent de la guerre du Vietnam, il n'y a pas encore une seule série qui parle de la guerre d'Algérie. C'est insensé. On est 70 ans après. Il n'y a pas une télésérie française qui parle de la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce que la télévision française est une télévision de pays élitistes dans lequel, surtout, faut pas donner à penser au public. Alors du coup, les meilleures téléséries à la télévision française, c'est les téléséries anglaises ou américaines, ou parfois danoises, hein, Borgen ou des choses comme ça, ou suédoises, quand on les voit. Mais c'est pas les séries françaises. Et donc, moi, j'ai pas pu en écrire parce que, par exemple, quand j'ai proposé de faire une télésérie sur un médecin de famille, et que je disais, voilà, on va faire un épisode qui va se passer dans un immeuble, il est remplaçant, il remplace le médecin au rez-de-chaussée de l'immeuble, et dans l'immeuble, qui est une tour où il y a 15 étages, où il y a des tas de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a deux ascenseurs, il y en a un qui ne marche pas. Et évidemment, il est appelé pendant tout le week-end à aller, à monter. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas de travail, qui sont dans le hall, qui sont parfaitement pacifiques, mais évidemment, il y a des flics qui viennent les emmerder, etc. Et ça va être vachement bien parce que tout se passe dans l'immeuble, donc vous aurez trois décors et vous aurez 350 histoires. Moi, je l'avais déjà en tête, le téléfilm. Ils m'ont dit, oh, mais c'est trop social. Ou bien j'avais dit, je vais refaire, je vous jure que c'est vrai, hein, en 2002, j'ai dit, je veux refaire Sherlock Holmes et Watson aujourd'hui, au 21e siècle. Sherlock Holmes, c'est un juge d'instruction et Watson, c'est un médecin légiste. En France, 10 ans avant Sherlock, 10 ans avant Elementary. Seul truc, c'est que mon Sherlock Holmes, il est gay. Ah, pourquoi il est gay? Ben parce que ça lui permet justement de ne pas avoir de se mettre en retrait de toute vie amoureuse, parce que quand on est juge d'instruction et quand on est juge d'instruction, on a une enquête de moralité et il a décidé à l'âge de 20 ans de ne plus avoir d'amant parce que s'il a une enquête de moralité, on ne voudra jamais qu'il soit juge d'instruction. Donc il décide de devenir une sorte de moine parce qu'il est gay. Bon. Mais évidemment, il regarde le monde d'une autre manière. Ah, on m'a dit, ah bon, c'est Sherlock Holmes, ouais, ah c'est intéressant. Il est gay, ouais, alors non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'à la télévision française, c'est pas possible qu'un personnage principal soit gay.
Pourtant, dans Plus belle la vie...
Oui, mais ça, c'est 10 ans ou 15 ans plus tard. Hein, bon. Donc, vous vous rendez compte, on aurait fait Sherlock Holmes et Watson en France en 2002, on avait 10 ans d'avance sur les Anglais. Donc, vous regardez Sherlock, c'est génial, Sherlock. Bon. On aurait eu 10 ans d'avant. Mais non, c'est pas possible. Bon, donc, c'est ça. J'aurais voulu en faire, mais j'ai pas pu.
Et finalement, c'est une frustration, entre guillemets, que vous avez compensée dans vos livres, parce que vous avez une forme d'écriture très feuilletonnesque.
Oui,
en fait.
C'est pas une frustration, parce que précisément, comme j'écris, et maintenant, on continue à me demander des trucs, je dis, mais non, moi, je suis beaucoup plus libre quand j'écris des romans, je fais ce que je veux dans les romans. C'est compliqué de faire des téléséries, parce qu'il y a plein de gens avec qui il faut qu'on travaille, il y a la chaîne, il y a plein de compromis qu'il faut faire. Un roman, vous ne faites pas de compromis, vous écrivez ce que vous voulez, si l'éditeur en veut, il le publie, un point c'est tout, vous n'avez pas besoin de changer une virgule. Quand vous travaillez avec des gens qui vous connaissent, vous n'avez pas besoin de changer une virgule. C'est compliqué de faire des films ou de faire des téléséries. C'est tout à fait un autre domaine, et puis ce n'est pas le mien.
Mais par exemple,
je ne suis pas frustré d'avoir écrit 50 livres, Mélanie.
Ah non, j'imagine. D'où les guillemets de ma question. Non, je veux dire, par exemple, la maladie de Sachs, on pourrait très bien l'imaginer sous forme de.
Ben, il y a un feuilleton radio, il y a eu France Culture qui l'a fait en 15 épisodes, c'est vachement bien.
Et c'est vrai que pourquoi personne n'y a jamais songé pour une série, finalement, parce que c'est une forme parfaitement adaptée.
Oui, mais parce qu'un feuilleton radio, vous le faites avec 5 acteurs et des bruitages, c'est pas compliqué. Produire une télésérie, ça demande beaucoup d'argent et surtout beaucoup de savoir-faire. Et en France, comme on est très timide, on n'a pas l'expérience du savoir-faire pour le faire. Alors, il y a des gens qui font des téléséries de temps en temps, mais c'est très compliqué à la télévision française. Il y a des problèmes structurels qui sont insurmontables. Alors que les Anglais, ils ont le même argent que nous, ils n'ont pas plus d'argent. La BBC n'a pas plus d'argent que France Télévisions. Mais ça fait très longtemps qu'ils font des trucs très très audacieux, très critiques. Par exemple, il y a une série qui s'appelait Peak Practice. Peak Practice, c'est une série sur des médecins de famille. Ça date des années 80. Dans les années 80, il y avait déjà des séries sur les médecins de famille, les médecins généralistes en Angleterre. Et c'était vachement bien.
Alors, vous avez eu beaucoup de mal à la télévision. Comme il reste 5 minutes, vous allez dire du mal du corps médical français. Vous regardez les débats autour de la loi Touraine, les débats autour du tiers payant actuel. Vous en pensez quoi?
Je pense que, comme d'habitude, si on voulait faire une réforme de l'enseignement, de l'éducation nationale, si on voulait faire une vraie grande, bonne réforme de l'éducation nationale, la première chose qu'il faudrait faire, c'est demander l'avis des élèves. Si on veut faire une grande, bonne réforme de la santé, la première chose qu'il faut faire, c'est demander l'avis des patients et des gens qui s'occupent d'eux au premier niveau, c'est-à-dire les médecins de famille, les infirmières, les sages-femmes, les gens qui sont sur le terrain. En France, on procède toujours du haut vers le bas. Les gens qui sont en haut décident pour les gens qui sont en bas. Et ils les voient comme ça, ils les voient comme les gens d'en bas. Et ils descendent pas pour dire, bon, c'est quoi vos besoins? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Non, ils disent, on va faire ça, ils décident. C'est pour ça que fondamentalement, c'est voué à l'échec, parce que c'est toujours décidé comme ça. Au Québec, ça se passe de manière très différente parce que c'est une province. C'est pas le Québec ne dépend pas d'Ottawa, qui est la capitale fédérale du Canada. Le Québec est autonome et donc au Québec, les problèmes de santé sont réglés en fonction des besoins de santé. Par exemple, il y a des gens qui habitent dans le Québec, c'est 10 fois plus grand que la France. Hein. C'est très très grand le Québec. Il y a des gens qui habitent au fin fond des provinces du Québec et où il n'y a pas de médecins. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, d'abord, il y a des médecins qui sont payés 2 fois plus pour aller une fois par mois passer une semaine dans ces endroits pour soigner les gens. Il y a des systèmes informatiques qui font qu'il y a des infirmières de secteur qui vous envoient les radios par Internet, vous analysez les radios, on vous dit, etc. Bon, il y a des systèmes qui permettent de pallier au manque de médecins. Les gens sont valorisés. Les médecins de famille au Québec sont considérés comme les médecins les plus importants. En France, on dit toujours que les médecins... Dans les facs de médecine, on dit que les médecins généralistes, c'est ce qu'il y a de moins bon. C'est un paradigme complètement différent. Et le problème, il est là. Le problème, il est que la loi santé, mais surtout l'esprit de la loi, c'est un esprit qui consiste non pas à valoriser les gens dont on veut faciliter le travail, mais soit à les contraindre, soit à les dévaloriser, soit à les surcharger de travail. Ça va pas marcher. Ils vont pas se laisser faire.
Bien.
Tu n'as plus de questions.
Non, c'est que malheureusement, je regarde l'heure et j'en ai encore à peu près 72 des questions en fait, mais là, ça va pas être possible.
Alors on va terminer ce direct, le débat pourra continuer dans la salle avec Martin Maclair. On va terminer ce direct parce que la béton mobile, qui est mobile, eh ben, elle va bouger et elle va se rendre au puzzle, au bar Le Puzzle pour un apéro béton, l'apéro béton mensuel. Donc vous êtes aussi invité à rejoindre béton à l'apéro béton. On remercie Violette et Johan. Merci Brigitte pour nous avoir reçu dans ce CDI et merci Martin Maclair.
Et merci de m'avoir reçu. J'étais très content d'être là.
Rendez-vous donc avec Martin Maclair aussi à
19h. 19h à la bibliothèque municipale.
Et
on parlera de House.
Voilà, merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.